Je voudrais rebondir sur le message de la semaine dernière qui portait sur la louange et l'adoration. C'est le thème pastoral de cette année. Vous savez qu'on a une assemblée générale, je crois que c'est le 19, si je ne m'abuse. 17? Ah oui, merci. C'est un vendredi. Où on va adopter de nouveaux projets pour l'année prochaine. Ce sont des projets d'enseignement biblique, enfin du contenu biblique et théologique, qui nous permettent tout au long de l'année de creuser un sujet particulier. Cette année, c'est l'adoration et la louange. Nous avons vu à différents moments le contenu de l'adoration et en particulier le fait que le principal contenu, c'est le sacrifice. Dans toute adoration, il y a sacrifice. Et ce matin encore, Michel a relu ce passage de Romains 12, que le meilleur culte, le culte le plus raisonnable qu'on puisse donner, c'est d'apporter nos corps en sacrifice vivant. Dieu a porté son sacrifice au travers de Jésus. Mais nous, dans un culte apporté à Dieu, nous devons apporter notre sacrifice. Et notre sacrifice, c'est notre être tout entier vivant, pour que le Seigneur puisse le transformer tout au long de cette marche, de cette adoration que nous avons avec le Seigneur. La semaine dernière, nous avons vu le but de l'adoration. Donc le contenu, le sacrifice, le but. C'est quoi le but de l'adoration? Très souvent, on pense que le but de l'adoration, c'est de louer le Seigneur. C'est de magnifier son nom, d'élever son nom, de le glorifier. C'est vrai que ça fait partie du but et je ne voudrais pas vous frustrer si vous pensez que ce n'est que cela. Mais si nous prenons la parole de Dieu, c'est ce que nous avons fait la semaine dernière, nous sommes allés dans la Genèse, là où Dieu nous montre dans sa parole l'intention qu'il avait pour l'être humain, homme ou femme. Et là, dans cet ordre de la création, nous voyons que l'un des buts, c'est que l'homme et la femme, que l'être humain domine sur la terre. Qu'ils ne soient pas dominés, qu'ils dominent. Alors bien sûr, le mot domination a une mauvaise connotation à cause de la domination des humains, des hommes, du pouvoir absolu et tout ça. Bon. Mais ce n'est pas parce que nous avons une mauvaise image d'un mot que nous devons rejeter l'enseignement de l'Écriture. L'Écriture montre que Dieu a créé l'homme pour qu'il domine sur la création, sur toute chose. Et l'adoration est un moyen de retrouver cette destinée que Dieu a donnée à l'homme. Et dans cette adoration avec Dieu, eh bien l'homme est restauré dans cette intention que Dieu avait pour l'être humain. Non pas qu'il soit dominé, mais qu'il domine sur toute chose et qu'il bénéficie de cette domination de la création sur la terre, bien sûr, puisque le ciel, il est exclu de cette domination. Mais ça, c'est l'enseignement du combat spirituel. C'est un autre enseignement. Donc, étant donné qu'on a fait cette étude sur le but de l'adoration, j'ai donné quelques exemples, dont celui de Moïse. Et je voudrais revenir ce matin pour le creuser un petit peu. Et pour cela, je vous propose la lecture d'Exode. Dans Exode, on va lire un bon passage au chapitre 3, qui nous parle de cette adoration sous forme de restauration, de forme de rédemption. La rédemption, c'est le rachat, hein, d'une situation de péché, une situation de chute, et pour nous amener à nouveau dans cette condition première, hein, qui était l'intention de Dieu pour que l'homme domine sur la terre. Alors on va lire dans Exode chapitre 3, du verset 1er, on va lire jusqu'au verset 15. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'homme vit qu'il faisait l'Éternel, pardon, vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, c'est moi, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. L'Éternel dit, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Herviens et les Jébousiens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va. Je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je suis avec toi. Et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais il me demande quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle, je suis, m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà comment je veux être invoqué de génération en génération. Et on va prendre trois versets qui se trouvent alors là, j'ai perdu la référence, excusez-moi. Ce qui se trouve. On va lire dans Exode 6, je ne suis pas sûr que ce soit ces références-là. En tout cas, c'est un peu la même chose. C'est l'Éternel hein, qui donc, continue à parler à Moïse. Et il dit au verset 2, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, moi je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été reconnu par eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné, où ils ont immigré. Mais j'ai entendu le soupir des Israélites et que les Égyptiens asservissent et je me suis souvenu de mon alliance. On va s'arrêter là. Voyez-vous, Dieu se révèle. Dieu s'est révélé à Abraham, Isaac, Jacob. Dieu se révèle à Moïse. Mais cette révélation, elle va en grandissant, en compréhension de qui est Dieu. La vocation de l'Église, hein, c'est amener des personnes à connaître qui est Dieu et à l'aimer avec passion. Connaître qui est Dieu. Est-ce qu'on peut prétendre connaître qui est Dieu? Je crois que personne d'entre nous. On peut vraiment connaître Dieu. Et vous voyez que Dieu s'est révélé au fur et à mesure. Et c'est celui qui est tellement différent de nous. Celui qui n'est pas de l'ordre du créé, il est incréé. Et nous sommes des créatures. Donc nous ne pourrons jamais vraiment connaître Dieu. Nous pourrons connaître une parcelle de qui est Dieu. Mais pas vraiment qui il est réellement. Il est d'un autre ordre que l'ordre de la création. Ceci étant, Dieu aime se révéler à sa créature parce que son désir, quand il a créé l'homme, c'est d'avoir une relation avec lui. Et c'est pourquoi le christianisme doit être tellement différent des autres religions, dans le sens où ce n'est pas, à proprement parler, une religion. Jésus-Christ n'est pas venu établir une religion. Jésus est venu pour montrer sa relation qu'il avait avec le Père, et montrer que cette relation, nous pouvons l'avoir avec le Père au travers de lui. Et il est venu comme un modèle, le modèle que Adam il a failli à ce modèle. Il est rentré dans la rébellion, il a écouté la voix du mensonge. Mais Jésus, lui, a toujours écouté le Père et il a résisté à la voix du mensonge. Et donc, pour nous, c'est le modèle de l'homme, de l'être humain que Dieu a voulu créer. Et nous pouvons tendre vers ce modèle et même être comme ce modèle, bien sûr, quand nous serons délivrés de ce corps de chair et que nous serons avec le Seigneur. Mais en attendant, le Seigneur veut nous transformer pour que nous puissions le connaître davantage, le connaître mieux, le présenter mieux autour de nous, tel qu'il est, et non pas comme un Dieu auquel on doit des choses, où on doit faire des rites pour obtenir sa faveur. Non, sa faveur, nous l'avons en Jésus-Christ. Donc nous vivons dans la grâce. Ceci étant, nous ne faisons pas n'importe quoi dans la grâce, mais nous sommes dans la grâce. J'aimerais ce matin, au travers de ce texte que nous avons lu, présenter trois étapes qui sont en quelque sorte le type de chrétien que nous devrions être. Le type de chrétien. Remarquez d'ailleurs que Moïse, c'est un type de Christ qui est... Il y a plusieurs types de Christ. Il y a Josué, d'ailleurs, le nom de Josué, Jésus, il a la même racine. Donc il y a beaucoup de types de Christ dans la Bible qui annoncent la venue de Christ. Mais Moïse, disons, a beaucoup d'égards, et celui qui est le plus proche du type de Christ, c'est pas la prédication de ce matin, mais on pourra revenir là-dessus. Et donc, c'est très important de considérer la figure de Moïse et ce qui s'est produit là, dans ce passage de l'Exode, pour bien comprendre le type de chrétien que nous devrions être et comment ces trois étapes, on peut les synthétiser en trois étapes, nous devrions chercher à les vivre. Parce que je vois beaucoup de chrétiens, surtout ces derniers temps, en particulier quand on prépare au baptême, on voit qu'il y a vraiment une absence de la conviction de péché. Or, c'est très souvent ce qui est à l'origine des réveils. Les plus grands réveils dans l'histoire de l'humanité ont toujours été, au départ, une conviction de péché, convaincu qu'on est perdu. Et c'est une prise de conscience, qui est une prise de conscience spirituelle, de voir que les choses spirituelles sont plus importantes que les choses matérielles et qu'on est séparé de la présence de Dieu. Et tous les réveils, je ne vais pas les citer aujourd'hui, mais vous les connaissez, beaucoup vous les avez lus, les histoires de réveils, et je vous encourage à le faire. Mais en ce moment, nous ne vivons pas des temps de réveil, et malheureusement, la conviction de péché est faible. Notion de péché, on a l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas bien, c'est pas juste, ce qu'on a fait, on essaie de corriger, voilà, donc on met des choses en place. Non, c'est pas ça. Péché, en hébreu, le terme c'est pacha, et pacha ça veut dire révolte. On est des révoltés. On n'est pas forcément, on fait des choses mal, bon bien sûr on les fait mal, mais c'est pas ça, c'est que cette révolte contre Dieu. Au fond de nous, tout notre être se révolte contre Dieu. On ne veut pas de Dieu, on ne veut pas qu'il nous impose quelque chose, on ne veut pas qu'il nous oblige à quelque chose. Hier encore à la radio, j'entendais sur le, vous savez, les Lumières. En France, on est le pays des Lumières. Et on a beaucoup influencé le monde par les Lumières. Alors, en dehors de la philosophie des Lumières, il y a l'aspect politique. Et dans l'aspect politique, les Lumières ont cherché à pousser, bien sûr avec la révolution de 1789, à aider les peuples à être autonomes. Autonomes, sans Dieu, sans roi. Être autonome, alors... Des bonnes choses, être autonome. L'Italie, en 1848, et beaucoup de pays européens sont rentrés dans cette autonomie des peuples pour, bien sûr, se protéger aussi, etc. Bon, on voit bien l'aspect positif des choses. Mais les monter comme ça en épingle, vous voyez, sans Dieu, c'est la révolte. Et c'est aussi l'origine de la construction de Babel, qui était de dire, eh bien, maintenant, on peut nous-mêmes atteindre Dieu, atteindre la divinité, atteindre la perfection. Donc cette révolte, c'est le péché. Le péché, c'est la révolte contre Dieu. C'est dire, je m'en sortirai tout seul. J'ai pas besoin de Dieu, je suis assez grand, maintenant j'ai la connaissance, j'ai un certain nombre de choses à ma disposition, je peux y aller, je peux me débrouiller, vous voyez. Et c'est ça. Et On a besoin de conviction, de péché. Et je crois que c'est Posson qui disait que à la profondeur, hein, de la conscience du péché correspond une profondeur de vie chrétienne, de conscience on sert un Dieu saint, hein, et la crainte de Dieu naît de cette conviction de péché. Donc, très rapidement, c'est trois étapes. La première étape, c'est l'étape de la révélation. La deuxième étape, c'est l'étape du passage. La troisième étape, c'est l'étape de l'alliance. Et je souhaite à chacun, peut-être, moi j'ai rien contre ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur et qui sont chrétiens, mais il faut quelque part, même s'ils sont chrétiens depuis longtemps, qu'ils demandent à Dieu vraiment qu'ils puissent vivre ces trois étapes. La première étape, nous la voyons dans le buisson ardent. L'ange de l'Éternel. Beaucoup de commentateurs pensent que c'est Christ lui-même, hein, l'ange de l'Éternel, lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Ça, c'est la révélation de Moïse, hein. C'est Abraham, Isaac, Jacob, Dieu leur a parlé, ils ont entendu la parole de Dieu. Là, Moïse voit un buisson ardent. Que tirez-vous de cette expérience de Moïse? Qu'est-ce que Moïse a pu connaître et comprendre de Dieu au travers de ce buisson ardent? Pourquoi un buisson ardent? Bon, on sait bien qu'on ne peut pas rencontrer Dieu directement, donc il y a eu cet intermédiaire, l'ange de l'Éternel et le buisson ardent. Mais est-ce que vous avez déjà réfléchi? Quelle est la prise de conscience qui s'est opérée à ce moment-là pour Moïse, pour la tâche qui va suivre? Bien sûr, Dieu a une destinée pour chacun de nous. Dieu avait une destinée pour Moïse, on le verra tout à l'heure. Hein. C'était d'amener le peuple à la montagne, hein, de le sortir d'Égypte pour l'amener à la montagne. Mais il avait besoin d'une prise de conscience. Si quelqu'un a une idée, je vous laisse l'exprimer. Quelle est la prise de conscience qu'il a eue par rapport à Dieu au travers de ce buisson ardent? Bien, mais je vais vous la donner. Elle est très simple. Voyez-vous, le buisson, normalement, un buisson normal, il brûle. D'accord. Donc, dans le naturel, si vous mettez le feu à un buisson, au bout d'un certain temps, même s'il est très épais, il disparaît, hein, sous l'effet du feu. Le fait qu'il reste allumé en permanence, c'est que Dieu parle au travers du buisson. Quelle est l'image que ça évoque? Voilà, l'éternité de Dieu, la durée. Que Dieu est au-dessus de la nature, que Dieu est au-dessus de la création. Que ce buisson, qui est un buisson normal dans le désert qu'il a rencontré, eh bien, dans la durée, le feu brûle. Donc c'est un phénomène surnaturel, bien sûr, mais qui parle de l'éternité de Dieu. Dieu est éternel. Dieu est tout autre. On ne peut pas traiter Dieu comme ça, comme un copain, hein, comme certains qui disent, ouais, mais Dieu, il faut que tu me donnes ça, il faut ceci, il faut cela, et puis là, je ne suis pas content, etc. Bon. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'exprimer devant Dieu naturellement, c'est pas ça. David l'a fait, il a exprimé sa souffrance. Mais je veux dire, on ne donne pas des ordres à Dieu. On ne dit pas maintenant ceci, cela. Vous voyez? Donc, cette conscience que Dieu est tout autre, il est au-dessus de la nature. Mais en même temps, en dehors de l'éternité, quelle est l'autre évocation qu'a ce buisson? Voyez-vous, l'idée qu'il faut trouver, c'est que le buisson, Dieu aurait pu directement parler par l'ange. Il aurait pu, il l'a fait dans 36 différentes occasions. Mais là, il a utilisé un buisson. Eh bien, tout simplement parce que Moïse, qui était un homme qui vivait dans la nature et dans le désert, il était interpellé pour dire que, pour comprendre, pour prendre conscience que ce Dieu d'éternité, eh bien, il rencontre aujourd'hui quelqu'un, ici et maintenant, Moïse, qui est dans le désert, qui a complètement perdu l'idée d'aller en Égypte, parce qu'il allait mourir, puisque sa tête était mise à prix là-bas, et il a fui. Donc, il fallait qu'il prenne conscience que ce Dieu-là l'interpelle lui personnellement, lui qui est pécheur, lui qui a commis un meurtre, etc., qu'il l'interpelle lui aujourd'hui et qu'il veut lui donner une mission. C'est-à-dire que ce Dieu de l'éternité rencontre le moment présent. On appelle ça le kairos, hein, on appelle ça un kairos, hein, c'est-à-dire une rencontre. une rencontre dans sa vie personnelle. Et maintenant, ça y est, il va se passer quelque chose. Il se passe quelque chose. Le Dieu intervient dans l'histoire, dans son histoire. Voyez. Et avec disons, un élément avec lequel, bon, normalement, il était habitué à ce buisson, mais là, il y a quelque chose de surnaturel. Donc, il est interpellé et il se rend compte qu'il est loin de ce Dieu-là, mais qu'en même temps, Dieu est proche parce qu'il veut l'utiliser, lui, qu'il l'inclut dans sa mission, dans son plan. Voyez-vous, c'est la conscience que nous devons avoir en tant que chrétiens, que même si ce Dieu est loin, qu'il est saint, qu'il est au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer, ce Dieu veut nous utiliser. Et il, malgré nos défauts, malgré nos imperfections, malgré ce qu'était Moïse et tout ça, il a dit, aujourd'hui, je veux t'utiliser. Aujourd'hui, j'ai un plan pour toi. Aujourd'hui, j'ai une mission pour toi. Voyez-vous, cette rencontre de l'éternité avec le temps présent que nous vivons dans le temps, Dieu vit dans l'éternité, eh bien, Dieu veut coopérer avec nous. Il veut une coopération. Voyez-vous, et ça, c'est totalement différent des autres religions, hein, qui placent les divinités tellement loin qu'il faut les vénérer, on a de la crainte, on a toutes sortes de rituels pour se protéger et tout ça. Mais, et puis d'ailleurs, on leur attribue les mêmes caractéristiques, voire les mêmes défauts, même pires que les nôtres. Bon, comme ça, ils sont plus agréables à manipuler et tout ça. Voyez-vous, mais ce Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, qui se révèle dans ce buisson, c'est dire, attends, Moïse, je veux t'utiliser tel que tu es, mais il faut que tu te rendes compte que moi, je suis saint, que moi, je suis tout autre, mais qu'on va faire une coopération ensemble, qu'on va faire un pas ensemble, mais il faut que tu te sanctifies. Donc, c'est le kairos de l'histoire. Dieu entre dans notre histoire. Dieu entre dans l'histoire de Moïse. Dieu entre dans l'histoire de son peuple. Dieu entre aujourd'hui dans mon histoire. C'est de prendre la conscience de directions différentes. Voyez-vous, l'homme se fixe des directions. Moi, j'étais en entreprise toute ma vie, hein, et j'ai fait de la stratégie. Et j'ai défini des directions, des plans. 5, 10 ans, 15 ans, jusqu'à 30 ans dans l'aéronautique. Pour projeter les choses. Et on prend les choses en main par des plans, par des intentions. On veut aller là, on se donne des objectifs, on essaye de les atteindre, etc. Voilà. Ça, c'est l'être humain. Mais là, Dieu dit, attention, c'est moi qui vais prendre les choses en main. C'est moi qui vais diriger, moi j'ai un plan, il faut que tu rentres dans ce plan, il faut que tu coopères avec moi, ce ne sera pas facile, parce que tu ne vas pas tout comprendre, parce que Dieu, lui, il est capable de gérer des choses que nous, on ne peut pas gérer. Et c'est l'obéissance à ce plan. C'est la soumission à ce plan qui, pour nous, est difficile, parce que lui tient compte de tellement de facteurs différents qu'on parfois on ne comprend pas, Seigneur, pourquoi tu fais ça? Là, on a une voisine avec laquelle on fait le parcours Alpha, qui aime le Seigneur et tout ça. Et puis, il y a des problèmes depuis que Michel est parti, et ils n'arrivent pas à s'entendre dans le conseil, etc. Enfin bon, il y a un éclatement, il y a des votes. Et la dame a dit, ah oui, il faut que celui-là, il passe, parce que c'est un homme bien, c'est vrai. Et puis, c'est un homme un peu corrompu qui a passé. Et elle a été déboussolée, mais le Seigneur nous a abandonnés. Il dit, non, le Seigneur nous a abandonnés. Il a un plan. Il a un plan. Laissons faire. Il a un plan. Nous, ce qu'il faut, c'est ne pas comprendre forcément le plan de Dieu, mais c'est de comprendre qui est Dieu pour qu'on lui fasse confiance que dans ce plan, il va nous amener à bon port, à bonne destination. Donc la première chose, c'est prendre conscience de qui est Dieu, de qui il est, pour que nous puissions avoir la crainte de Dieu, que nous puissions adopter ses directions, que nous puissions dire oui, Seigneur. Je veux te faire confiance. Et Marie, dans sa prière, bien sûr, est exemplaire, disant, Seigneur, que ta volonté se... Je ne comprends pas. Hein, tu vois, là, tu me rends enceinte. Je suis absolument, par rapport à la société, un rejet, quoi. Vis-à-vis de mon futur mari, vis-à-vis de ma famille, de tout, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et comprenait pas. Bon, et... Par contre, elle a soumis sa volonté à dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je veux bien être ta servante. Mais vous savez, c'est un prix à payer d'être serviteur, servante du Seigneur, parce que lui, ses plans sont au-dessus de nos plans. Et il faut adopter ses plans, sa direction et son appel. Croire que nous avons un appel. Et ça, c'est la dimension de la révélation de Dieu. Dieu avait un appel pour Moïse, pour emmener le peuple hors de la captivité, pour l'emmener à la montagne. Et toute cette histoire nous montre que Dieu ne demande qu'une chose à Moïse. Il dit, écoute, je sais que tu as peur du pharaon, et il y a de quoi. Je sais que tu as peur de ton propre peuple, parce que tu t'es comporté de telle manière, et bon, il est rebelle, et il ne peut pas t'accepter. Donc je connais toutes ces craintes-là. Mais ce n'est pas ton problème, ça. Ça, c'est mon problème. Moi, je vais m'occuper du pharaon, je vais m'occuper du peuple. Mais toi, amène-les à la montagne. Vous voyez, parfois, il faut ramener notre appel à des choses très simples. Pas compliquer les choses. Moïse devait amener le peuple à la montagne. Et toutes les circonstances qui sont intermédiaires, eh bien, c'est Dieu qui s'en occupe. Et je crois que nous aussi, dans notre ministère, devons dire, Seigneur, eh bien, c'est toi qui t'occupes des ressources. Moi, je veux bien te servir, mais il n'y a que toi qui peux faire en sorte que toutes ces ressources, que toutes ces difficultés puissent être surmontées. Donc, première chose, révélation de Dieu, c'est aussi ce qu'on appelle l'incarnation. Le buisson ardent, c'est l'expérience que Moïse a faite, mais à Noël, la fête que nous allons célébrer, à Noël, Jésus est venu s'incarner, Emmanuel. C'est un autre niveau de révélation qui est venu dans le temps. Dieu s'est manifesté dans le buisson, et à Noël, donc Dieu s'est manifesté au travers de son Fils Jésus-Christ, et ça c'est un autre niveau de révélation. Et là, les Juifs, la plupart n'ont pas suivi, ils ont décroché. Parce que, vous voyez, la révélation, c'est quelque chose qu'on reçoit dans notre cœur par la foi et par la dimension de cette recherche de Dieu. Le prophète Siméon, qui attendait cela, quand on est dans l'attente, il a reconnu Jésus. Les autres juifs n'ont pas reconnu, mais lui, il a reconnu. Vous savez, quand on est en attente dans notre cœur de recevoir de Dieu, on reconnaît les choses spirituelles. Et ça, c'est le niveau de révélation. Donc, je prie que chacun de nous, même si nous n'avons pas suffisamment vécu, nous puissions rechercher ce niveau de révélation. Seigneur, qui es-tu? Toi qui es infiniment puissant, qui es infiniment grand, toi, tu acceptes que moi, je collabore à ton plan. Ça, c'est du niveau de la révélation. La deuxième étape, c'est l'Exode, ou ce qu'on appelle aussi la Pâque. La Pâque, je vous rappelle que ça veut dire passage. Il y a eu plusieurs passages au moment de l'Exode. Je ne parle pas des plaies d'Égypte, ça c'est le combat spirituel qui a eu lieu, et Dieu s'en est occupé. Moïse y était pour pas grand-chose, si ce n'est qu'il a dû prendre le bâton d'autorité. Sachez toujours que le bâton de l'autorité, si vous ne le prenez pas, il se transforme en serpent, et c'est ce que nous, on a dû apprendre dans le ministère. Il faut toujours tenir le bâton de l'autorité que Dieu nous donne. Et Moïse a reçu ce bâton d'autorité, il a exercé ce qu'il fallait auprès du Pharaon, et il fallait que les choses se passent comme ça pour être une préfiguration de l'agneau pascal. La dernière plaie, c'était l'agneau qui devait être sacrifié, qui devait être mis sur les linteaux des portes. C'est une préfiguration de Christ, une figure de Christ. Et c'est ce sang qui a permis que les premiers-nés des Juifs ne soient pas touchés par la mort, que l'ange de la mort y passe. Donc ils ont été sauvés à premier passage de la mort, première Pâque de la mort. La deuxième Pâque, le deuxième passage, c'est la mer Rouge. Quand ils sont tous venus et qu'ils ont dit, ça y est, on est libre de l'Égypte, et ils s'attendaient à ce que ça soit une autoroute pour le pays de Canaan, et ils tombent devant la mer, une difficulté énorme. Eh bien, deuxième gros problème, et il fallait passer, eh bien, Dieu utilisait Moïse, qui lui savait qui était Dieu. Le peuple ne savait pas, il n'avait pas la révélation. Mais Moïse l'avait. Eh bien, lui, il ouvre les eaux et il passe. Et ça renvoie aussi à ces montagnes dont Jésus parle dans le sermon sur la montagne. Si nous avons des montagnes, il m'a dit à cette montagne, jette-toi dans la mer. Vous voyez, par la foi, nous pouvons prendre l'autorité, si nous sommes dans le plan de Dieu, pour que des montagnes, des difficultés, des situations impossibles, infranchissables, puissent être franchies. Dieu nous donne cette autorité. Et ça, c'est le deuxième niveau de vie, de réalisation de notre vie, c'est de comprendre que Dieu n'est pas à bout des obstacles. Dieu est celui qui nous permet de les franchir. Même s'ils sont infranchissables, Dieu va nous aider à les franchir. La Pâque est l'expérience de l'intervention miraculeuse de Dieu, de l'intervention puissante de Dieu. Nous avons chanté ce matin, Majesté, Majesté. Dieu est majesté. Et quand nous sommes dans son plan, il nous permet d'avoir des difficultés justement pour nous montrer sa puissance et sa gloire, pour nous manifester, pour que nous puissions avoir cette expérience de sa puissance. Alors je ne vous demande pas de demander à Dieu des épreuves, je pense que certains vous en avez, mais demandez à Dieu d'expérimenter vraiment ce niveau de foi, de voir les difficultés s'ouvrir. Peut-être pas comme vous pensez d'ailleurs, mais comme Dieu l'a prévu pour que vous puissiez rentrer dans la liberté. Ce qui est important, c'est de rentrer dans la liberté. Parce que de l'autre côté de la mer Rouge, c'était quoi? C'était la montagne. Et l'objectif de Dieu pour Moïse, c'est de l'emmener à la montagne. C'est pas de rester de l'autre côté, de faire un camp, de se réjouir et tout ça. Non, c'est de l'emmener à la montagne. Dieu veut toujours l'emmener, nous emmener dans sa présence. Donc c'était pas fini. Ça, c'était la deuxième étape, mais c'était une étape intermédiaire. La dernière étape que Dieu nous demande en tant que chrétiens, c'est d'aller à la montagne. Alors nous avons vu que cette montagne qui s'appelle le Sinaï ou Horeb, la montagne de Dieu à Horeb, en fait les racines hébreues sont les mêmes, ça veut dire désertique, hein, c'est une montagne désertique. D'ailleurs, les archéologues ont du mal à désigner quel est exactement le sommet. On n'a pas réussi à trouver exactement le sommet. Il y a plusieurs sommets qui peuvent répondre à cette description biblique. Mais c'est un endroit désert. Par contre, c'est la montagne de Dieu. Dieu a choisi cette montagne pour s'y révéler à Moïse et maintenant au peuple. Donc le but, vous voyez, c'est d'arriver à cette montagne. Et là, ils arrivent à cette montagne, d'après la tradition judaïque, en tout cas, c'est 50 jours, mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Donc c'est une tradition et ça correspond à la Pentecôte. Enfin, entre Pâques et Pentecôte, il y a 50 jours, c'est la fête où on agite les épis, hein, qui sont les prémices de la moisson. Donc vous voyez, tout ça, il y a des symboles qui se retrouvent après dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce qu'à cette montagne-là, on passe d'une étape, d'un plan de Dieu à un autre. Le premier plan de Dieu, c'est d'appeler les patriarches, qui étaient des pères d'une grande famille. Abraham, encore une petite famille, Isaac et Jacob, qui avaient 12 enfants, donc 12 tribus, et qui ont donné lieu, effectivement, à croître entre eux, au point qu'ils sont devenus, je ne sais pas, 300 000 hommes, au bout d'un certain temps, un très, très grand peuple. Et donc là, il fallait instituer, eh bien, l'alliance entre un peuple, et pas avec des hommes uniquement, avec des patriarches. Et donc là, cette étape s'est passée au Sinaï. Dieu a voulu instituer une alliance avec son peuple. Ça, c'était l'objectif de Dieu. Dieu ne veut pas vous emmener dans des difficultés sans faire alliance avec vous. Voyez-vous? Ça, c'est extraordinaire. Dieu fait alliance avec nous. Et cette alliance, c'est une alliance d'amour. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, on est tellement, disons, à cheval, je dirais, sur l'alliance du mariage. Parce que l'alliance du mariage renvoie à l'alliance entre Jésus et son Église. Et voyez-vous, certains pensent que le fait de divorcer, c'est un sacrilège. Non, c'est pas un sacrilège. Mais simplement, bon, vous créez beaucoup de difficultés, hein, et pour vos enfants surtout, etc. Donc il y a des conséquences, c'est vrai. Et le deuxième, c'est que vous ne reflétez pas vraiment l'image de Christ et de l'Église. C'est dommage. C'est-à-dire que, bon, c'est comme ça, c'est à déplorer, mais bon, sans plus. Je veux dire, c'est pas ça qui va vous sauver, c'est pas ça qui va vous condamner, quoi. Mais les alliances sont quelque chose absolument fondamental dans la Bible. Et Dieu veut faire alliance avec les hommes et avec des peuples et avec des nations et avec tout le monde entier, quoi. Et c'est ce qu'il va faire quand il va revenir. Donc là, il va faire alliance sur le mont Sinaï avec le peuple qui venait juste de sortir d'Égypte, mais avant d'aller plus loin, il fallait qu'il fasse cette alliance. Alors, je pose une question que vous connaissez pour ceux qui ont été là dimanche dernier. Combien de temps ils étaient à cette montagne? Combien de temps a duré cette période où le peuple était, disons, en relation avec Dieu, où Dieu lui donnait des choses à cette montagne? Combien de temps? 15 mois. Voilà. Parce que très souvent, il y en a qui répondent 40 jours, ou 80 pour ceux qui sont un peu futés parce qu'ils savent que les tables ont été brisées et il fallait retourner 40 jours, donc 80 80. En réalité, c'était 90. Mais en fait, l'ensemble de cette période du Sinaï, c'était 15 mois. Et qu'est-ce qu'ils ont reçu en plus de la loi, parce qu'on pense tous à la loi, mais sur ce mont Sinaï, c'est la loi et bon, vous le savez, puisque vous étiez là dimanche dernier. Rappelez plus. Ah, je pensais quand même une semaine, on pouvait s'en rappeler. Le tabernacle. Bon, ce qui est dommage, vous voyez, c'est un problème d'expérience aussi, c'est que pendant un temps, il y a un frère, un pasteur, maintenant je ne sais plus s'il vit encore, il est assez vieux, il avait fabriqué un tabernacle avec tous les petits détails, et il était très grand, il faisait 5 mètres sur 5 mètres, et il faisait toute la France avec, et donc il nous expliquait pendant une semaine tous les soirs tous les détails qu'il y avait dans le tabernacle, et la correspondance, bien sûr, avec le symbolisme du Nouveau Testament. Donc, bien sûr, moi, je m'en rappelle très bien, parce qu'on a cette vision concrète des choses. Le tabernacle, Dieu a donné tous les éléments du tabernacle, ils sont très, 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 très importants, très compliqués. Enfin, compliqués parce que, complexes, hein, parce qu'ils représentent une réalité céleste. Et le tabernacle, c'est là où Dieu voulait manifester sa présence. Vous, la parole de Dieu, c'est les exigences, et le tabernacle, c'est la grâce, c'est l'amour, c'est la présence de Dieu. Dieu voulait être au milieu du peuple. Son désir, c'est d'avoir une relation avec son peuple, avec ses enfants. C'est ça son désir. Et le tabernacle a été donné pour cela. Et c'est quoi le tabernacle aujourd'hui? Est-ce que c'est le temple de Jérusalem? Malheureusement, les Juifs, ils aimeraient bien le construire, mais ils n'y arrivent pas, hein, parce que les Arabes l'en empêchent, et c'est pour ça qu'il y a une bagarre, hein, spirituelle. Quel est le tabernacle aujourd'hui? Où il est le tabernacle? Dans votre cœur. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à comprendre le tabernacle, parce que vous ne voyez pas votre cœur. C'est vrai qu'il est, il est invisible. Mais c'est dans notre cœur. Aujourd'hui, le tabernacle, c'est dans notre cœur. Mais il y a un autre tabernacle aussi. Il est où? Il est situé où, le tabernacle? Un, le tabernacle est dans notre cœur, parce que Jésus vient dans notre cœur, mais il se trouve aussi dans le ciel. Le lieu qui est le véritable tabernacle, se trouve dans le ciel. Il y en a qui veulent aller au ciel ici? Ben, nous irons dans le tabernacle de Dieu. Et dans le ciel, il y a un tabernacle. La localisation s'est déplacée de Jérusalem, elle est passée au ciel. Et Jésus s'est présenté dans ce tabernacle lui-même, avec son propre sang. Lisez l'Épître aux Hébreux, et tout ce que je vous dis sera clair pour vous. Et Jésus s'est présenté lui-même. Quand il est descendu aux enfers et qu'il est monté au ciel, eh bien, il a présenté son sang, son propre sang, dans ce tabernacle. Il a fait ce parcours entre le lieu saint, le lieu très saint, et bien sûr, le voile a été déchiré, parce que le voile de sa chair a été déchiré, et il s'est présenté sur le propitiatoire. Et Dieu a dit, j'accepte ce sang pour l'éternité. Et au lieu de faire des sacrifices qui devait être renouvelé, c'est un sacrifice éternel au travers du sang de Jésus. C'est des choses concrètes, ça. Spirituellement, il faut bien voir qu'on est dans une réalité réelle, spirituelle, pas simplement symbolique, ni illusoire. Et donc, aujourd'hui, Dieu, bien sûr, c'est pour ça que nous avons un souverain sacrificateur, c'est Jésus, et c'est le seul qui peut aller dans ce sanctuaire. Mais lui se présente. Et il est dit qu'il se présente devant Dieu pour intercéder en faveur des saints. Dieu intercède, Dieu demande la grâce pour nous. Et c'est pour ça que nous n'avons pas besoin d'avoir peur de Dieu, grâce à Jésus qui est notre souverain sacrificateur. Il se présente pour nous devant Dieu et il obtient la faveur pour nous. Amen. C'est ça la grâce. Mais nous, bien sûr, si nous voulons coopérer avec le Seigneur, bien sûr, nous pouvons recevoir la grâce, mais la grâce pour toujours tomber dans les mêmes problèmes, nous, on va être des piètres chrétiens. Donc Dieu veut nous transformer pour que nous puissions prendre autorité, pour que nous puissions dominer sur les choses et ne pas être dominés, pour entrer dans la destinée que Dieu a pour nous, dans la perspective que Dieu avait pour nous dès l'origine. Et c'est pour cela que cette présence dans le tabernacle nous fortifie, nous renouvelle, nous accorde la grâce. On voit que Moïse, à plusieurs reprises, donc, prophétise sur l'œuvre de Christ. Vous voyez le rocher qui est frappé, vous voyez la manne, vous voyez l'eau vive, etc., qu'on retrouve. Et la Pentecôte, donc, ces 50 jours, c'était entre la Pâque, la sortie d'Égypte, et le mont Sinaï. 50 jours. Et ça correspond à la fête de Pentecôte. La fête de Pentecôte, en fait, on fêtait les gerbes comme des épis. Là, vous voyez des épis qui sont dans le vase. On prenait les premiers épis, tout verts, hein, tout verts, hein, qui venaient juste de sortir de terre, et on les jetait, enfin, on les agitait. On agitait ces épis. C'était la fête de Pentecôte, traditionnelle chez les Juifs. Et ça, c'était pour remercier le Seigneur pour la moisson qui allait venir. Voyez-vous? Et ça renvoie à ce que Christ a fait pour nous. Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre salut. Et à la Pentecôte, 50 jours après, il a envoyé son esprit. Il a reçu l'autorisation du Père d'envoyer son esprit et de fonder un nouveau peuple. C'est le peuple de Dieu, l'Église. Hein? Moïse, c'était le peuple de Dieu, les Israélites. Et avec Jésus, c'était l'Église. Mais vous voyez, la correspondance est tout à fait similaire. Et ça préfigurait cette Pentecôte chrétienne qui est l'envoi du Saint-Esprit pour former un peuple qui lui appartienne et qui le serve pour toujours. Donc cette Pentecôte, elle est vraie encore aujourd'hui. Et nous sommes des peuples de la Pentecôte. Notre origine, c'est à la Pentecôte que nous avons eu cette alliance où Dieu a établi le tabernacle dans notre cœur par son esprit. Et c'est pour ça que nous avons une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est de représenter Dieu, de l'honorer par nos vies et de changer de comportement. Donc, ça, c'est le troisième niveau. Et changer de comportement, vous savez, ça, c'est un peu un gros mot quand on demande aux chrétiens de changer de comportement. Ah non, non, il faut m'accepter tel que je suis. Non, non, ça, c'est pas chrétien, ça. Hein? C'est quelque chose qui permet de dire, bon, bah, laisse-moi tranquille, je veux vivre la vie que je veux. Non? Donc, je termine en rappelant, j'ai pas eu le temps, hein, sur l'ordinateur de faire trois colonnes. Vous avez les trois colonnes. La première, c'est la révélation. Deuxième colonne, c'est la Pâque, c'est le passage. La troisième colonne, c'est la Pentecôte. Dans la révélation de l'Ancien Testament, vous avez le buisson ardent. Hein. Dieu se révèle comme celui qui est l'éternité, mais qui rentre dans le présent, dans l'histoire de son peuple, pour créer un peuple. La Pâque, donc le deuxième niveau de la vie du croyant, c'est de vivre la Pâque. L'agneau pascal, qui est un franchissement d'obstacles de notre nature humaine, de notre chair, de notre péché. Nous ne pouvons pas nous racheter nous-mêmes. Nous avons besoin d'un sauveur. Et donc, Dieu est venu parce que si nous sommes morts, parce que le péché, l'issue du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, la Pâque, c'est le salut que nous avons au travers de l'agneau pascal et du franchissement de la mer Rouge dans l'Ancien Testament. Et la Pentecôte, c'est donc la conclusion de l'alliance, où le peuple reçoit la loi, les exigences de Dieu, parce qu'il y a des exigences de sainteté, et le tabernacle où Dieu se manifeste sa présence, et la naissance du peuple d'Israël. Si nous venons dans la nouvelle alliance, nous avons à nouveau ces trois étapes. Première étape, c'est Noël. Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus, Dieu s'incarne. Il accepte de rentrer dans cette humilité pour rentrer au niveau de la création, pour s'incarner. Là aussi, c'est un mystère pour nous, mais nous sommes en face devant l'amour de Dieu, devant ce qu'il est capable de faire, lui. Est-ce que nous aurions fait ça si nous étions Dieu? De rentrer dans un univers fini, avec toutes les limitations, les problèmes, les difficultés, tout ce que Jésus a subi, Dieu l'a fait. Et ça, il faut en être conscient, il faut le réaliser, pour que nous puissions développer la crainte de Dieu. Deuxième étape, c'est la Pâque. C'est l'agneau de Dieu, Christ immolé à la croix, et qui nous a permis de franchir l'obstacle du péché, qui nous permet, si nous confessons nos péchés, il est juste et véritable pour nous les pardonner, et il ne s'en souvient plus. Voyez-vous, quelque chose d'impossible a été rendu possible à Pâques. Et à la Pentecôte, eh bien, Dieu a pris la loi. La loi n'a pas été abolie. La loi existe toujours. Les exigences de Dieu sont toujours les mêmes. La sainteté de Dieu est toujours la même. Toutes ces exigences sont les mêmes. Mais cette loi, il l'a mis dans nos cœurs. C'est ça la différence. Il l'a placée dans nos cœurs pour que nous puissions l'accomplir. Pour que nous puissions l'accomplir. Donc, dans cette troisième étape, c'est que Dieu attend des changements dans nos comportements. Dans nos comportements. Parfois, vous trouvez en tant que pasteur devant des situations des réponses chrétiennes ahurissantes, quoi. Qui dit, moi, faut m'accepter, je suis gitan. Okay? Donc, je réagis comme un gitan. Non, même les gitans, Dieu peut les changer. Amen. C'est que Dieu veut que nous changions nos comportements, parce qu'il n'y a qu'un seul royaume, c'est le royaume de Dieu. Il n'y a qu'une seule culture. Il y a aussi une sœur qui était superbe dans l'intercession, mais bon, elle était africaine et elle dit, nous, notre culture, c'est la culture africaine, donc il faut accepter la culture africaine. Elle dit, non, nous, l'Église, ce n'est pas la culture africaine ou la culture française ou la culture américaine, c'est la culture du royaume. Alors, la culture du royaume de Dieu. Et c'est autre chose. Là, les sources de la culture, nous l'avons dans la Bible. Nous ne l'avons pas dans notre passé, dans ceci c'est bon, ceci c'est pas bon, etc. Vous voyez, nos jugements, et c'est ce qu'on appelle les valeurs dans notre vision. Les valeurs sont celles qui sont issues de la culture du royaume. Adoptons la culture du royaume de Dieu. Amen. Donc, la Pentecôte nous amène la loi dans le cœur, et le temple du Saint-Esprit, c'est notre corps, où nous déplaçons, pas uniquement le dimanche à l'église, mais dans notre situation de tous les jours, avec la présence de Dieu avec nous. Et il faut que cette présence de Dieu puisse avoir réellement une place pour impacter le monde dans lequel nous sommes. Je termine par notre situation personnelle. Donc il y a la nouvelle naissance, bien sûr. Mais pour avoir cette révélation, la nouvelle naissance, parfois, c'est juste, bon, je lève la main, j'accepte le Seigneur. Il faut aller plus loin. Il faut demander au Seigneur une révélation de qui il est, une compréhension que moi, je suis pécheur, et que lui, il est saint, et qu'il est tout autre. Au niveau de l'Église, c'est pareil. Nous, on a commencé une Église dans les années 80, et il a fallu attendre 98 pour que nous ayons cette révélation en tant qu'Église. Parce que l'Église, vous savez, on peut vivre en Église comme ça. Olé, olé, c'est super et tout ça. Mais quand vous rentrez dans les vrais enjeux du combat spirituel, les choses changent. Les choses changent. Et nous sommes dans un combat spirituel. Et donc là, il faut être sérieux et il faut demander à Dieu, en tant qu'Église, d'avoir ce kairos, cette rencontre avec Dieu où toutes les choses changent. Nous, en 98, tout a changé. Tout, tout, tout. Tout, tout, tout. Et on s'est rendu compte que devant les puissances, en tout cas territorial, on ne pouvait à rien. Il détruisait tout. Il fallait l'intervention de Dieu. Et là, on a appris les choses. La crainte de Dieu, la connaissance de Dieu, la foi, la prière, etc. Et c'est aussi la conscience de notre identité. Vous savez, on parle beaucoup de la conscience de l'identité. Mais qui nous sommes en Christ? Quels sont les éléments que Dieu me donne en tant que chrétien? Qui je suis? Et si je ne sais pas qui je suis, je ne peux pas tenir sur le roc. Lorsque l'adversité arrive, je ne peux pas être ferme dans mes projets, dans mes décisions, parce qu'à chaque fois, je vais les remettre en question, suivant les situations négatives par rapport à ces projets. Mais si j'ai une conscience des directions que Dieu m'a données, c'est une conscience de l'appel que Dieu m'a donné, et je ne bougerai pas. Je ne bougerai pas. Parce que j'ai l'autorité de Dieu dans ma vie pour le faire. Voyez-vous? Et c'est pour ça que chaque chrétien devrait demander cette conscience de l'appel. Seigneur, tu m'as appelé. Déjà appelé à te connaître, appelé à être à toi, mais appelé dans un ministère, appelé dans telle chose. Et si tu m'as appelé, Seigneur, toi, tu vas donner ce que tu appelles, tu vas donner toutes les ressources pour cet appel. Donc, le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est l'expérience du passage de la mer rouge, l'expérience du passage de la mort, de franchir des murs insurmontables. Donc là, c'est une expérience personnelle, mais aussi d'église, et ça, on l'a vécu aussi, de ces difficultés insurmontables, y compris de cet esprit territorial qui nous narguait en permanence. Et Dieu l'a battu, et Dieu nous a donné la victoire. Et donc, ce deuxième niveau donne aussi une croissance, une maturité à l'église. Et le troisième niveau, c'est de refaire alliance avec Dieu. C'est Rebecca Brown qui insiste beaucoup sur refaire cette alliance. Je crois qu'il ne faut pas trop en faire non plus, mais je crois beaucoup à cette alliance. Hein. Si vous avez une difficulté particulière dans votre vie, hein, une difficulté majeure, enfin quelque chose qui vraiment vous tient à cœur, pas une petite babiole, une voiture, un truc comme ça, hein, je ne parle pas de ça, mais quelque chose de très profond, eh bien n'hésitez pas à faire alliance avec Dieu. Dieu est un Dieu d'alliance, de manière spécifique, en disant Seigneur, tu m'as appelé. tu m'as demandé de faire ça, tu vois la difficulté, mais Seigneur, je veux faire alliance avec toi. Je veux compter sur tes ressources, sur ton action. Moi, je veux faire ce que je peux, mais c'est toi qui vas m'aider. Et vous voyez, Dieu aime les alliances et ils ne rompt jamais ces alliances quand elles sont faites dans l'esprit de la parole. Et le début de la marche chrétienne, c'est la crucifixion, la marche de prendre la croix. Jésus a dit, si vous voulez me suivre, vous voulez me suivre ? Ok, pas de problème, suivez-moi. Mais quelles sont les conditions ? Il y a des conditions. Matthieu 16, 24, a dit, prenez votre croix chaque jour. C'est ça la condition. Et la croix, c'est justement crucifier la chair, crucifier tous ces comportements qui ne sont pas les comportements de la culture du royaume. Et vous les crucifiez, vous dites, Seigneur, non, j'abandonne ça, j'y arrive pas, tu m'as donné l'autorité pour le faire, tu me donnes la persévérance, j'y arrive pas une fois, deux fois, trois fois, il faut que j'y arrive parce que je sais que c'est la culture. Et pas dire, mais non, il faut que tu m'acceptes comme comme je suis un gitan. Non, dire, Seigneur, je veux aller. Vous voyez, là, on voit les chrétiens qui eux, ils tracent, hein. Les chrétiens qui en veulent, quoi. Ils vont jusqu'au bout des choses et ils vivent des choses formidables parce qu'ils remportent des victoires. Et bien sûr, le résultat, c'est les fruits. Fruits de l'esprit, c'est de goûter, hein, de goûter les fruits pour l'Ancien Testament du pays de Canaan, mais vous avez vu qu'il n'y en avait pas beaucoup qui ont goûté, hein. Même Moïse, Dieu ne l'a pas laissé entrer. Il n'y a que Josué, Caleb et sa famille, enfin tous les bâtons qui sont restés dans le domaine de la foi, qui ont suivi ces étapes de cette conscience de Dieu, de ce niveau de maturité spirituelle et de ce niveau de crucifixion de la chair, hein, il a dû prendre sur lui-même, hein, de voir tous ses collègues là qui racontent tous ces 12 espions, ces 10 espions, et tous les deux, ils devaient être devant le peuple pour augmenter la foi du peuple, et puis ils étaient démolis par leurs collègues là. Vous savez, c'est pas facile. Et ça rend quelqu'un de mûr quand il résiste devant ce genre de combat. Et ce n'est que Josué et Caleb qui ont eu cette fermeté, qui sont rentrés dans le pays de Canaan, et qui ont pu dominer dans le pays de Canaan, rentrer dans le but de l'adoration. Puisque l'objectif, c'était l'adoration, c'était d'amener le peuple à la montagne du Dieu pour l'adorer et pour goûter les bienfaits de cette rédemption, de ce rachat. Voilà, l'incrédulité fait beaucoup de dégâts dans nos vies, mais c'est parce que souvent, la profondeur de notre expérience avec Dieu n'est pas suffisante. J'aimerais qu'on puisse prier pour nous, bien sûr, individuellement, pour nous en tant qu'Église, mais aussi pour les Églises en général, que cette profondeur de la conscience de Dieu et de notre écart par rapport à Dieu, mais en même temps, cette coopération, vous voyez, c'est tout en même temps. Hein. Et c'est pour ça que c'est spirituel, c'est que par la grâce que nous le recevons, de réaliser ces choses, que nous sommes aimés de Dieu, que Dieu a un appel pour nous, et qu'en même temps, nous devons bien accepter d'être dans cette sainteté, dans cette crainte de Dieu, de dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Et Jésus a dû le faire dans le jardin de Gethsémané, quand il était au plus dur de sa souffrance, au plus dur de cette coupe qu'il devait boire. Il était prêt à renoncer, mais au dernier moment, il a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Que le Seigneur nous aide.